Excellent réveil à tous, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'entreprise Deliveroo condamnée en France pour travail dissimulé, un précédent qui pourrait ouvrir la voie à un mouvement de requalification des contrats pour les livreurs à vélo, on l'entendra.
Et puis cette grande entreprise française épinglée pour présomption de discrimination à l'embauche.
Parmi elles, Air France, Accor Hôtel et Renault notamment. C'est le résultat d'une vaste enquête menée par des chercheurs du CNRS, résultat dévoilé hier par le gouvernement. Précision à suivre de Catherine Pétillon.
17 morts dans la région d'Idlib à la tribune des Nations Unies. Les Occidentaux dénoncent un carnage en cours.
Reportage dans la région auprès des blessés avec Aurélien Colli. Face à l'épidémie de coronavirus qui a fait plus de 630 morts en Chine, à Dakar, des ateliers se mettent en place pour dépister le virus. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, rapport Racine sur la situation des auteurs. Publie-t-on trop de livres? Je poserai la question à une professeure de littérature contemporaine, Sylvie Ducasse.
C'est une première en France. L'entreprise de livraison de plats cuisinés Deliveroo vient d'être condamnée par la justice pour travail dissimulé. Après 4 ans de procédure, la plateforme en ligne est condamnée à verser 30 000 euros à l'un de ses anciens livreurs, Damien Mestre.
L'affaire concerne un jeune livreur de 23 ans qui, durant 7 mois, va travailler pour la plateforme Deliveroo. Comme tous les autres livreurs, il bénéficie à l'époque d'un contrat de prestation de service en tant que travailleur indépendant. Un contrat que vient de requalifier la justice. Le juge a en effet estimé qu'il s'agissait en fait d'un véritable contrat de travail comme pour n'importe quel salarié. Une décision logique selon Kevin Mention, l'avocat du livreur.
Deliveroo fixe de manière unilatérale les zones de travail, les rémunérations qui sont accordées aux livreurs. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut payer des cotisations salariales, patronales, accorder des congés payés et toutes les garanties qui existent pour les salariés, notamment en termes de rupture de contrat, de licenciement, etc.
Mais la décision ne s'arrête pas là, puisque pour la première fois en France, Deliveroo est condamné pour travail dissimulé. Le juge a en effet reconnu que la plateforme agissait de façon intentionnelle et elle est donc contrainte à verser en tout 30 000 euros au livreur. Cette décision s'appuie en partie sur un arrêt de la Cour de cassation rendu en 2018 contre Take It Easy, une ancienne plateforme aujourd'hui disparue. Selon l'avocat, c'est donc le début d'un grand mouvement de requalification de contrat chez les livreurs.
Voilà, maintenant qu'il y a eu cette impulsion avec Take It Easy, avec cette première condamnation, ça devrait aller beaucoup plus vite. Surtout que maintenant, au niveau des moyens de preuve aussi, pour démontrer cette subordination juridique, on en a quand même beaucoup. Donc on devrait obtenir des condamnations plus facilement.
De son côté, Deliveroo se réserve le droit de faire appel et explique que cette condamnation concerne un livreur de 2015, en rappelant que depuis, les pratiques ont évolué.
Damien Mestre, 7 grandes entreprises françaises épinglées pour présomption de discrimination à l'embauche. Parmi elles, notamment Air France, Accor Hôtel et Renault. La liste a finalement été dévoilée hier par le gouvernement. Il s'agit du résultat d'une étude menée à la demande de l'exécutif par des chercheurs du CNRS auprès de 40 entreprises cotées en bourse. Le gouvernement aura mis 9 mois à dévoiler les noms des sociétés pour tenir la promesse d'Emmanuel Macron qui s'était engagé en 2017 à rendre public les noms des entreprises les plus délinquantes en la matière, mais aussi à pénaliser les discriminations à l'embauche, selon les mots du chef de l'État à l'époque. Hier, l'exécutif a prudemment mesuré ses propos, Catherine Pétillon.
Mieux vaut s'appeler Émilie Petit que Yasmina Medaoui ou Julien Legrand plutôt que Mourad Benzakri lorsque l'on cherche du travail dans une très grande entreprise. Les résultats du plus important testing sur le recrutement jamais mené sont clairs. Au global, sur les 40 entreprises testées, un candidat dont le nom a une consonance maghrébine a 25% de chances en moins d'obtenir une réponse positive d'un recruteur qu'une personne au patronyme européen. Une équipe de recherche du CNRS a envoyé des milliers de CV fictifs via plusieurs canaux en répondant à des offres d'emploi, en faisant des demandes d'informations ou des candidatures spontanées. 7 entreprises ressortent comme particulièrement discriminantes sur le critère de l'origine. Il s'agit, à des degrés divers, d'Air France, Accor Hôtel, Altran Technologies, Rexel, un fournisseur de matériel électrique, le groupe chimique Arkema, Soprasteria, une entreprise de services numériques et Renault. Toutes ces entreprises contestent et la méthode et les conclusions de l'étude, tout en rappelant leur engagement en faveur de l'égalité des chances. Elles critiquent plus particulièrement les tests menés sur des candidatures spontanées, estimant que cela ne reflète pas les politiques et processus de recrutement. Sur ce point, l'enquête note pourtant que les résultats obtenus sont similaires si l'on répond à une offre ou si l'on candidate spontanément. Face à cela, le gouvernement semble avoir opté pour un entre-deux attentiste. Il a choisi de rendre public les noms des entreprises, mais en même temps reste loin de les mettre à l'amende, expliquant qu'à ce stade, aucune conclusion ne peut être tirée.
Catherine Pétillon. Contre la réforme des retraites, 120 000 personnes ont manifesté hier à l'appel de l'intersyndicale un peu partout en France, selon le chiffre du ministère de l'Intérieur, dont 13 000 personnes à Paris, toujours selon le ministère. Ils étaient 130 000 manifestants, rien que dans la capitale, selon les chiffres de la CGT. Hier soir, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée d'action nationale, le jeudi 20 février prochain. L'UNSA RATP appelle de son côté à un lundi noir dans les transports d'Île-de-France, le lundi 17 février. Jour d'arrivée du texte dans les débats à l'Assemblée nationale.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont contre les violences sexuelles et sexistes dans le monde de l'édition. Une tribune en ligne appelle à la fin de la loi du silence.
Oui, dans le sillage du séisme de l'affaire Matzneff et traversé par le raz-de-marée MeToo, une quarantaine d'éditrices, d'autrices et quelques collègues masculins aussi ont signé cet appel. Parmi les signataires, Léonore de Recondo, qui a signé notamment le livre Amour. Elle veut changer les rapports de force.
Ce qui se passe, c'est que les postes de pouvoir sont encore aux mains de ceux qui ont un certain âge et qui vivent dans une sorte d'ancien monde où il y avait une sorte d'impunité qui était parfois de l'ordre de la galanterie et puis parfois de l'ordre de l'abus. Il y a peu d'hommes de 30 ans dans les jurys littéraires. Sans parler des femmes, évidemment, ça c'est à l'image de cet entre-soi qui évidemment dans l'affaire Matzneff a été évident, une sorte d'impunité de l'entre-soi où on se tape un peu sur l'épaule en tant qu'autrice. Je vois bien dans quel monde je suis. Et justement, la littérature, c'est le terrain de l'exploration, c'est le terrain de où toutes les balises peuvent être dynamitées. Et donc c'est vraiment dans ces milieux-là, dans tout ce qui vient informer, que ce soit une information factuelle, que ce soit une information émotionnelle, poétique, ça c'est un lieu qui doit être complètement délivré des pressions de genre et de pouvoir.
Des propos recueillis par Céline Autin pour France Culture. Les signataires espèrent former maintenant un collectif et lancer une plateforme en ligne pour recueillir les témoignages. C'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales pour participer aux élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Reportage à suivre auprès des jeunes de 18 à 25 ans dans le journal de 8h sur France Culture.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier soir après la mort de 17 civils dans le nord-ouest de la Syrie.
Oui, 17 civils, parmi eux des enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À la tribune des Nations Unies hier soir, les Occidentaux, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont qualifié de carnage l'offensive en cours et dénoncé un drame humanitaire. L'offensive est menée par les forces du régime syrien, aidées de l'allié russe, et elle progresse dans une ville clé de la province d'Idleb. Le président turc Erdogan a sommé mercredi le régime syrien de retirer ses troupes de la région du nord-ouest de la Syrie d'ici la fin du mois, sous peine d'une intervention militaire. Plus de 3 millions de civils sont réfugiés dans cette province, bloquée entre les combats et une frontière fermée par la Turquie. Notre envoyé spécial dans la région s'est rendu à Reneil, ville frontière turque qui borde Idlib, dans un dispensaire où on prend en charge les civils syriens qui ont subi une amputation. Reportage d'Aurélien Colli.
Ahmed a 22 ans, il a perdu une jambe au printemps dernier quand le régime syrien a commencé son offensive sur le sud d'Idlib. Je me rappelle pas bien, j'étais dans le jardin avec mon père et puis plus rien. On m'a dit après que 4 bombes étaient tombées, raconte le jeune homme, en essayant pour la première fois sa prothèse. Autre pièce, autre patiente, Anadi, la quarantaine, originaire de Homs, réfugiée à Idlib, avant là encore un bombardement. J'étais à la maison, quand c'est arrivé j'ai vu ma jambe, j'ai tout vu, je suis restée consciente jusqu'à l'hôpital, confie cette maman, qui a aussi perdu son mari sous les bombes. Face à elle, une responsable de l'ONG qui gère ce dispensaire tente de la réconforter. Là-bas, il y a un manque d'accès à des installations standards de qualité, un manque d'antibiotiques. Ça donne des infections, des complications et plus d'amputations, indique-t-elle, entourée de techniciens et de médecins syriens, réfugiés eux aussi, qui fabriquent sur place jusqu'à 50 prothèses chaque mois. On est toujours sous pression, on peut aider 50 personnes, mais il y en a des centaines qui attendent à Idlib. Il y a même une liste d'attente, déplore l'un d'entre eux.
Un reportage signé Aurélien Colli pour France Culture. En deux mois, quelques 586 000 personnes ont été déplacées par les combats dans cette région, dont la moitié est dominée par les djihadistes et où sont présents des groupes rebelles, selon un nouveau bilan des Nations Unies. En Allemagne, le président de région élu avec les voix de la droite et de l'extrême droite a été poussé à la démission hier, entraînant avec lui la dissolution de l'Assemblée régionale. De nouvelles élections sont donc à prévoir dans les prochaines semaines dans la petite région de Thuringe, scène d'une crise politique qui choque tout le pays. Une digue censée être étanche entre les conservateurs du parti d'Angela Merkel et l'extrême droite, l'AFD, a été rompue, un tabou brisé. Reportage à suivre dans le journal de 8h sur France Culture. Un médecin chinois sanctionné pour avoir alerté à l'apparition du nouveau coronavirus est mort ce matin, victime du virus. Deux semaines après la mise de facto en quarantaine du Hubei, la province où est apparue la pneumonie virale, l'épidémie a fait plus de 636 morts et contaminé plus de 31 000 personnes en Chine, selon un dernier bilan communiqué par les autorités. Au Sénégal, pour prévenir la propagation du virus en Afrique, l'Institut Pasteur de Dakar a mis en place des ateliers à destination de 15 laboratoires africains. Ils ont été lancé hier pour dépister la maladie. C'est une initiative de l'Union africaine et un reportage de William Delesseux.
France Culture.
Travaux pratiques, manipulation des tests pour identifier le virus, enseignement à propos de la nature de la maladie, c'est le programme du directeur de l'Institut Pasteur à Dakar, Amadou Al-Fassal, auprès des laboratoires.
Mesdames et messieurs les participants.
Son objectif, les rendre capables de confirmer les symptômes d'une éventuelle infection au coronavirus.
Ce qu'ils vont apprendre ici, c'est comment à partir d'un prélèvement fait sur un cas suspect, extraire tout le matériel génétique du virus et le détecter d'une façon incontestable.
Une initiative saluée par l'Organisation mondiale de la santé, sa représentante au Sénégal, Lucie Limboa, est confiante dans la réponse qui sera ensuite donnée à d'éventuels cas, déclare.
Les pays, dans l'ensemble, dans leur préparation, ne partent pas de zéro. La plupart des pays ont réactivé leur comité d'urgence. Ils bâtissent sur ce qui a été fait par rapport à l'épidémie d'Ebola.
Le virus Ebola, éradiqué en 2014 au Sénégal, une lutte exemplaire. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé du pays.
Et nous avons énormément capitalisé de ce point de vue-là. Donc le Sénégal a des armes de combat contre les épidémies.
Le pays se tient en état d'alerte face au coronavirus. Aéroports et centres hospitaliers ont pris depuis deux semaines des mesures de prévention.
Reportage signé William Delesseux à Dakar pour France Culture. Un mot de météo, un grand soleil presque partout aujourd'hui. Quelques nuages en revanche sur l'ouest et sur le Languedoc. Ce matin, les températures sont comprises entre moins 1 et 11 degrés. Moins 1 degré à Strasbourg, 4 degrés à Paris, 7 à Bordeaux, jusqu'à 11 degrés à Marseille.